Chapitre 15. Ayant terminé sa lecture, M. Bergeret plia son manuscrit et le mit dans sa poche. M. Mazur, M. Payot et M. de Terremondre inclinèrent trois fois la tête en silence. Puis ce dernier posa la main sur la manche de Bergeret. « Ce que vous venez de nous lire, cher monsieur, lui dit-il, est véritablement... » À ce mot, Léon se précipita dans la boutique et s'écria avec émotion et importance « On vient de trouver Madame Houssieux étranglée dans son lit !» « C'est singulier, dit M. de Terremondre. D'après l'état du corps, ajouta Léon, on croit que la mort remonte à 3 jours. » Alors, remarqua M. Mazur, archiviste, ce serait samedi que le crime aurait été commis. Payot, libraire, demeuré jusque-là muet, la bouche ouverte, respectueux de la mort, rassemblait ses souvenirs. Samedi, vers 5 heures de l'après-midi, j'ai très bien entendu des cris étouffés et le bruit sourd produit par la chute d'un corps. J'ai même dit à ces messieurs, il se tourna vers M. de Terremondre et vers M. Bergeret, qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire dans la maison de la reine Marguerite. Personne ne confirma l'avantage que se donnait le libraire, qui seul, par l'acuité de ses sens et la subtilité de son jugement, avait eu soupçon de l'acte dans le moment où il s'accomplissait. Payot, après un silence respectueux, reprit « Dans la nuit du samedi au dimanche, j'ai dit à Madame Payot, on n'entend plus rien dans la maison de la reine Marguerite. » Monsieur Mazur demanda l'âge de la victime. Payot lui répondit que Madame Houssieux avait de 79 à 80 ans, qu'elle était veuve depuis 50 ans, qu'elle possédait des terres, des valeurs, à une forte somme d'argent, mais qu'avare et fantasque, elle n'avait point de servante, cuisait elle-même ses aliments dans la cheminée de sa chambre, et vivait seule parmi les débris de meubles et de vaisselle recouverts d'une poussière d'un quart de siècle. Il y avait plus de 25 ans, en effet, qu'on avait donné un coup de balai dans la maison de la reine Marguerite. Madame Houssieux sortait peu, se procurait des vivres pour une semaine entière, et ne recevait personne chez elle, hors le garçon boucher et 2 ou 3 gamins qui faisaient des commissions. « Et l'on croit que le crime a été commis samedi dans l'après-midi ? » demanda M. de Terremondre. « On s'en doute d'après l'état du corps, » répondit Léon, « il paraît qu'il est affreux à voir. » « Samedi, dans l'après-midi, reprit M. de Terremondre, nous étions ici, séparés seulement par un mur de la scène horrible, et nous causions de choses indifférentes. » Il y eut encore un long silence. Puis on demanda si l'assassin était pris ou si seulement on le connaissait, mais Léon ne put, malgré son zèle, répondre à ces questions. Une ombre sans cesse épaissie et qui semblait funèbre s'étendait sur la boutique du libraire. Elle était produite par la foule noire des curieux amassés sur la place devant la maison du crime. « On attend sans doute le commissaire de police et le parquet, » dit l'archiviste Mazur. Payot, qui était doué d'une exquise prudence, craignant que le peuple curieux ne brisât les glaces de sa montre, ordonna à Léon de fermer les volets. « Vous ne laisserez ouverte, dit-il, que la devanture qui donne sur la rue des Tintelleries. » Cette mesure de précaution parut empreinte d'une certaine délicatesse morale. Ces messieurs du coin des bouquins l'approuvèrent. Mais comme la rue des Tintelleries était étroite, et parce que de ce côté les affiches et des modèles de dessins couvraient les glaces, la boutique se trouva noyée dans l'obscurité. La rumeur de la foule, imperceptible tout à l'heure, s'entendait dans l'ombre et se prolongeait, sourde, grave, presque terrible, exprimant l'unanimité du sentiment moral. M. de Terremondre, ému, traduisit de nouveau la pensée dont il était frappé. « C'est singulier, dit-il. Pendant que le crime s'accomplissait si près de nous, nous causions tranquillement de choses indifférentes. » Alors M. Bergeret inclina la tête vers l'épaule gauche, regarda au loin et parla de la sorte. « Cher monsieur, permettez-moi de vous dire qu'il n'y a là rien de singulier. Il n'est pas d'usage, lorsqu'une action criminelle s'accomplit, que les conversations s'arrêtent d'elles-mêmes autour de la victime, dans un rayon de quelques lieues ou seulement de quelques pas. Un mouvement inspiré par la pensée la plus scélérate ne produit que des effets naturels. Monsieur de Terremondre ne répondit pas à ce discours, et le reste des auditeurs se détourna de Monsieur Bergeret avec un vague sentiment d'inquiétude et de réprobation. Le maître de conférence à la faculté des lettres poursuivit toutefois « Et comment un acte aussi naturel et fréquent que le meurtre produirait-il des effets rares et singuliers ? Tuer est ordinaire à l'animal et surtout à l'homme. Le meurtre a été longtemps estimé dans les sociétés humaines comme une forte action, et il subsiste encore dans nos mœurs et dans nos institutions des traces de cette antique estime. « Quelles traces ? » demanda M. de Terremondre. « Elle se retrouve, répondit M. Bergeret, dans les honneurs qu'on rend aux militaires. »« Ce n'est pas la même chose, dit M. de Terremondre. »« Assurément, dit M. Bergeret, mais toutes les actions humaines ont pour mobile la faim ou l'amour. La faim instruisit les barbares au meurtre, les poussa aux guerres, aux invasions. Les peuples civilisés sont comme les chiens de chasse. Un instinct corrompu les excite à détruire sans profit ni raison. » La déraison des guerres modernes se nomme intérêt dynastique, nationalité, équilibre européen, honneur. Ce dernier motif est peut-être de tous le plus extravagant, car il n'est pas un peuple au monde qui ne soit souillé de tous les crimes et couvert de toutes les hontes. Il n'en est pas un qui n'ait subi toutes les humiliations que la fortune puisse infliger à une misérable troupe d'hommes. Si toutefois il subsiste encore un honneur dans le peuple, c'est un étrange moyen de le soutenir que de faire la guerre, c'est-à-dire de commettre tous les crimes par lesquels un particulier se déshonore, incendie, rapine, viol, meurtre. Et quant aux actions dont l'amour est le mobile, elles sont pour la plupart aussi violentes, aussi furieuses, aussi cruelles que les actions inspirées par la faim, en sorte qu'il faut conclure que l'homme est une bête malfaisante. » Mais il reste à chercher pourquoi je le sais et d'où vient que j'en ressens de la douleur et de l'indignation. S'il n'existait que le mal, on ne le verrait pas, comme la nuit n'aurait pas de nom si le jour ne se levait jamais. Cependant, M. de Terremondre avait assez accordé à la religion de la tendresse et de la dignité humaine en se reprochant d'avoir conversé d'une manière gaie et légère dans la minute du crime et si près de la victime. Il commença de considérer la fin tragique de Madame Veuve Houssieux comme un incident familier qui peut se regarder en face et dont on découvre les conséquences. Il songea que rien maintenant ne l'empêchait d'acheter la maison de la reine Marguerite pour y mettre ses collections de meubles, de faïences et de tapisseries, et de constituer de cette sorte une sorte de musée municipal. Il comptait, pour prix de ses soins et de sa munificence, recevoir, avec les louanges de ses compatriotes, la croix de la Légion d'honneur et peut-être le titre de correspondant de l'Institut. Il avait aux inscriptions deux ou trois camarades, comme lui vieux garçon, avec lesquels parfois il déjeunait à Paris dans quelques cabarets en contant des histoires de femmes, et il n'y avait pas de correspondant pour la région. Aussi eut-il déjà l'idée de déprécier l'immeuble convoité. « Elle ne tient plus debout, dit-il, la maison de la reine Marguerite. Les poutres des planchers tombaient en lambeaux d'amadou sur la pauvre octogénaire. Il faudra dépenser des sommes immenses pour la remettre en état. » « Le mieux, dit l'archiviste Mazur, serait de la mettre à bas et de transporter la façade dans la cour du musée. Il serait dommage, en effet, d'abandonner au démolisseur l'écu de Philippe Tricouillard. » On entendit un grand mouvement de foule humaine sur la place. C'était le public que la police refoulait pour donner aux magistrats accès dans la maison du crime. Paillot passa le nez par la porte entr'ouverte. « Voici, dit-il, M. Roquincourt, le juge d'instruction, avec son greffier, M. Surcouf. Ils sont entrés dans la maison. » Les académiciens du coin des bouquins s'étaient glissés l'un après l'autre derrière le libraire sur le trottoir de la rue des Tintelleries, d'où ils observaient les grands mouvements de peuple qui agitaient la place Saint-Exupère. Paillot reconnut dans la foule M. le premier président Cassignol. Le vieillard faisait sa promenade quotidienne. La foule agitée, qu'il avait surpris dans son itinéraire, inquiétait sa marche petite et sa vue affaiblie. Il allait, encore droit et ferme, portant haut sa tête desséchée et blanche. Payot, l'apercevant, courut au-devant de lui, tira sa calotte de velours et, lui tendant le bras, l'invita à venir s'asseoir dans la boutique. « Quelle imprudence à vous, monsieur Cassignol, de traverser une telle cohue, on dirait une émeute !» À ce mot d'émeute, le vieillard eut comme la vision du siècle révolutionnaire dont il avait vu les trois quarts. Il entrait dans sa 87e année et comptait déjà 25 ans d'honorariat. Soutenu par le libraire Payot, il franchit le pas de la boutique et s'assit sur une chaise de paille au milieu des académiciens respectueux. Sa canne de jonc à pomme d'argent tremblait sous sa main entre ses cuisses creuses. Son échine était plus raide que le dossier de son siège. Il tira pour les essuyer ses lunettes d'écaille et fut lent à les remettre. Il avait perdu la mémoire des visages, et bien qu'il eût l'oreille dure, c'est à la voix qu'il reconnaissait les gens. Il s'enquit en peu de mots de la cause des rassemblements qui s'étaient formés sur la place, et il écouta à peine la réponse que lui fit M. de Terremondre. Son cerveau, sain et durci, conservé comme dans la mire, ne recevait plus aucune empreinte nouvelle, tandis que les idées et les passions anciennes y demeuraient profondément fixées. Messieurs de Terremondre, Mazure et Bergeret, debout, l'entouraient. Ils ignoraient son histoire, perdue dans un passé immémorial. Ils savaient seulement qu'il avait été le disciple, l'ami, le compagnon de Lacordaire et de Montalembert, qu'il avait résisté à l'Empire dans les limites exactes de son droit et de sa fonction, qu'il avait essuyé jadis les affronts de Louis Veuillot, et que tous les dimanches il allait à la messe un gros livre sous le bras. Il le voyait, comme toute la ville, accompagné de son antique probité et de la gloire d'avoir soutenu durant sa vie entière la cause de la liberté. Mais aucun d'entre eux n'aurait pu dire de quelle façon il était libéral, car aucun n'avait lu cette phrase d'une brochure publiée par M. Cassignol en 1852 sur les affaires de Rome. « Il n'y a de liberté que celle qui croit en Jésus-Christ et à la dignité morale de l'homme. » On disait que, gardant à son âge l'activité de son esprit, il classait sa correspondance et travaillait à un livre sur les rapports entre l'Église et l'État. Il parlait encore avec abondance et vivacité. Dans la conversation, qu'il suivait mal, entendant prononcer le nom de M. Garand, procureur de la République, il dit, en regardant la pomme de sa canne, comme le seul témoin des jours anciens qui subsistât encore, « J'ai connu en 1838 à Lyon un procureur du roi qui avait une haute idée de sa fonction. Il soutenait qu'un des attributs du ministère public était l'infaillibilité et que le procureur du roi ne peut pas plus se tromper que le roi lui-même. Il se nommait Monsieur de Clavel et il a laissé des ouvrages estimés sur l'instruction criminelle. » Et le vieillard se tut, solitaire, avec ses souvenirs, au milieu des hommes. Payot, sur le pas de la porte, regardait au dehors. « Voici M. Roquincourt qui sort de la maison. » M. Cassignol, songeant aux choses passées, dit « Je fais mes débuts au parquet. J'étais sous les ordres de M. de Clavel, qui me répétait sans cesse « Pénétrez-vous bien de cette maxime, l'intérêt de l'accusé est sacré, l'intérêt de la société est deux fois sacré, l'intérêt de la justice est trois fois sacré. » Les principes métaphysiques avaient alors plus de force sur les esprits qu'ils n'en ont maintenant. « C'est bien vrai, » dit M. de Terremondre. « On emporte une table de nuit, de la vaisselle et du linge dans une petite voiture à bras, » dit Payot. « Ce sont sans doute des pièces à conviction. » M. de Terremondre, n'y tenant plus, alla voir charger la voiture. Et tout à coup, le sourcil froncé, il s'écria « Sacrebleu !» Et sous le regard interrogateur de Payot, il ajouta « Rien, rien. » Il avait, subtil amateur, discerné parmi les objets saisis un pot à eau en porcelaine à la reine, et il se promettait d'en demander des nouvelles, après le jugement, au greffier Surcouf, qui était serviable. Il usait de ruse pour former ses collections. « On fait comme on peut, se disait-il à lui-même, les temps sont durs. » « Je fus nommé substitut à 22 ans, reprit M. Cassignol. « Alors, mes longs cheveux bouclés, mes joues imberbées roses, me donnaient un air de jeunesse qui me désolait. Je dus, pour inspirer le respect, affecter un air grave et garder un maintien sévère. Je remplis mes fonctions avec une application qui fut récompensée. À 33 ans, j'étais procureur général au Puy. « C'est une ville pittoresque, dit M. Mazure. » En vertu de mes nouvelles fonctions, je dus requérir, dans une affaire peu intéressante, si l'on ne regarde qu'à la nature du crime et le caractère de l'accusé, mais qui avait bien son importance puisqu'il s'agissait de faire tomber une tête. Un fermier assez riche avait été trouvé assassiné dans son lit. J'omets les circonstances du crime, qui demeurent pourtant fixées dans ma mémoire, mais elles sont des plus banales. Il suffira de dire que, dès le début de l'instruction, les soupçons se portèrent sur un garçon de charrue, serviteur de la victime. Cet homme était âgé d'une trentaine d'années. Il se nommait Poudraille, Hyacinthe Poudraille. Il avait disparu brusquement le lendemain du crime. On l'avait trouvé dans un cabaret où il faisait d'assez grosses dépenses. De fortes présomptions le désignaient comme l'auteur de cet assassinat. Il fut reconnu possesseur d'une somme de 60 francs dont il ne put justifier la provenance. Ses vêtements portaient des traces de sang. Deux témoins l'avaient vu rôder autour de la ferme dans la nuit du crime. Il est vrai qu'un autre témoin lui fournissait un alibi, mais ce témoin était d'une immoralité notoire. L'instruction avait été très bien conduite par un juge d'une habileté consommée. L'acte d'accusation était dressé avec beaucoup d'art. Monsieur Poudraille n'avait pas fait d'aveu, et à l'audience, dans tout le cours des débats, il se renferma dans un système de dénégation dont rien ne put le faire sortir. J'avais préparé mon réquisitoire avec le soin dont j'étais capable et la conscience d'un jeune homme qui ne veut pas paraître trop inégal à ses hautes fonctions. Je mis à le prononcer toute l'ardeur de mon âge. L'alibi fourni par la femme Cortot, qui prétendait avoir gardé Poudraille chez elle au puits pendant la nuit du crime, m'embarrassait beaucoup. Je m'efforçais de le détruire. Je menaçais la femme Cortot des peines dues aux faux témoins. Un de mes arguments frappa surtout l'esprit des jurés. Je leur rappelais qu'au titre des voisins, les chiens de garde n'avaient point aboyé à l'assassin. C'est donc qu'ils le connaissaient, ce n'était donc pas un étranger. C'était le valet de charrue, c'était Poudraille. Enfin, je demandai sa tête, et je l'obtins. Poudraille fut condamné à mort à la majorité des voix. Après la lecture de la sentence, il s'écria d'une voix forte « Je suis innocent !» Alors un doute terrible me saisit. Je songeais qu'après tout, il pouvait dire vrai, et que cette certitude que j'avais fait passer dans l'esprit des jurés n'était point en moi. Mes confrères, mes maîtres, mes aînés, et jusqu'à l'avocat du condamné, venaient me féliciter de ce beau succès, applaudir ma jeune et redoutable éloquence. Ces louanges m'étaient douces. Vous connaissez, messieurs, la délicate pensée de Vauvenargues sur les premiers rayons de la gloire. Cependant, la voix de Poudraille disant « Je suis innocent » résonnait à mon oreille. Il me restait des doutes, et j'avais besoin de me développer sans cesse à moi-même mon réquisitoire. Le pourvoi de Poudraille fut rejeté, et mes incertitudes augmentèrent. En ce temps-là, les grâces n'arrêtaient point avec une fréquence excessive l'effet des sentences de mort. Poudraille implora vainement la commutation de sa peine. Le matin du jour fixé pour l'exécution, quand déjà l'échafaud était dressé au martouret, je me rendis à la prison, me fis ouvrir la cellule du condamné, et restai seul en face de lui. « Rien, lui dis-je, ne peut changer votre sort. S'il subsiste en vous un bon sentiment, dans l'intérêt de votre âme, et pour le repos de mon esprit, Poudraille, dites-moi si vous êtes coupable du crime pour lequel vous êtes condamné. » Il me regarda quelques instants sans répondre. Je vois encore sa face plate et sa large bouche muette. J'eus un moment d'angoisse terrible. Enfin, il inclina la tête de haut en bas et murmura d'une voix faible mais distincte « Maintenant que je n'ai plus de méfiance, je peux bien dire que j'ai fait la chose. Et j'ai eu plus de mal qu'on ne croit, parce que le vieux avait de la force, et même il était méchant. » En entendant cet aveu suprême, je poussai un grand soupir de soulagement. Monsieur Cassignol se tut, fixa longtemps sur la pomme de sa canne le regard de ses prunelles effacées et déteintes, et puis prononça ces paroles. « Durant ma longue carrière de magistrat, je n'ai jamais eu connaissance d'une erreur judiciaire. »« Voilà une affirmation rassurante, » dit Monsieur de Terremoudre. « J'en demeure glacé d'effroi, » murmura Monsieur Bergeret.